Vous êtes sur RTL.
RTL.
Ça y est, c'est fait, quoi. C'est fait. Vendée Globe, ça a été pour moi un truc de malade, quoi.
Le journal inattendu.
On vient de passer le Cap Horn. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est le Cap Horn, hein, pour les enfants, on n'est pas tous champions du monde de la géographie. C'est ce petit île qui est là, avec un phare. Et voici, mesdames et messieurs, en direct, clac, 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 Kevin Escoffier, le rescapé, le rescapé. Alors, Kevin, comment ça se passe à bord de Yes We Can ?
On rigole bien.
Et on mange bien ou pas ?
Ah, super bon.
Bon.
On est hyper fiers, hyper heureux pour Kevin et vous. Et pour toute sa famille, et hyper fier de ce que vous avez fait.
Monsieur le Président, yes, we can.
Laurent Agelon.
Là, j'ai connu l'insoutenable. Et en fait, l'insoutenable, on y arrive, quoi. On y arrive quand même.
12h30, 13h30, le journal inattendu prend le large avec Jean Le Cam et Ophélie Meunier sur RTL.
Le roi, Jean Le Cam.
Clac, 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 et voilà en direct Jean Le Cam. Bonjour,
oui, bonsoir,
Jean.
Bonjour à tous.
Merci d'être là, on vous sentait ému. Enfin, je vous regardais en écoutant là, vos mots.
Bah ouais, parce que c'est un peu une synthèse de ce qui s'est passé, donc c'est vrai qu'il y a des...
Je vous ai vu repartir
voilà, c'est
dans
ça,
vos yeux. C'était très touchant. Bienvenue dans le journal inattendu, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous sommes en direct et pendant une heure, c'est vous qui tenez la barre de cette émission. Le roi Jean, vous venez de faire un Vendée Globe mémorable. Un périple d'un peu plus de 81 jours que les Français ont suivi passionnément. Ponctué par un sauvetage légendaire, on l'a entendu, celui de Kevin Escoffier. Vous nous avez vendu du rêve. Dans cette période tourmentée, vous étiez nos moments de joie, d'émotion et de liberté. Ça, c'est vu de la terre. Mais vu de la mer, de votre point de vue, ça a été probablement une des courses les plus éprouvantes de votre vie. Vous allez nous expliquer pourquoi. Dans ce journal inattendu, Jean Le Cam, on va aussi vous découvrir autrement, à travers l'invité que vous avez choisi, votre reportage inattendu. Et vous nous dévoilerez vos goûts musicaux et cinématographiques qui en disent long sur vous aussi. Mais d'abord, c'est l'autoportrait. Au début de l'émission, je donne une minute à mon invité pour se présenter. Alors Jean Le Cam, qui êtes-vous ?
Alors, qui je suis ? Ben, je suis, voilà, je fais partie de l'espèce humaine, en fait. Donc, avec deux bras, deux jambes. quatre enfants et quatre chiens. Donc, voilà.
Presque ça, huit enfants, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on ne sait pas si c'est les chiens qui prennent plus de place que les enfants. Ça dépend des moments. Donc, voilà, ben, je suis né en avril 59 dans le Finistère. Donc, j'étais. Toute mon enfance à Châteauneuf-du-Fou, donc au milieu du Finistère, ensuite Quimperlé, avec un père ingénieur des travaux publics qui était déjà attiré par la voile et la compétition. Et puis, voilà, c'est sûr que j'étais tout de suite baigné dans la technique, puisque mon père s'occupait aussi de la construction d'un pont de Bénodet dans lequel j'allais voir, parce que j'adorais la technique. Après, forcément, j'allais sur les chantiers avec lui. Un jour, c'est ma mère qui m'a raconté ça. J'étais mon père entrant à la maison, il m'avait oublié sur le chantier.
C'est pas vrai.
Si, il m'avait oublié sur un chantier et donc j'étais avec les gars sur les engins, donc les scrappers, etc. Donc j'étais chouchou des gars qui bossaient là-bas. Et il arrive à la maison et ma mère lui dit mais où est Jean ? Et mon père. Oh, je l'ai oublié sur un chantier, donc branle-bas de combat, etc. Donc voilà, c'est avec lui que j'ai commencé à naviguer sur le bateau Mervan, un Armagnac. Et puis ensuite, voilà, ben mes passions, c'est... voilà, moi j'aime la mécanique, la terre, j'aime la construction, la mer, la compétition, et puis j'aurais pu être jardinier aussi, j'aurais pu être danseur étoile, j'aurais pu voilà, mais j'ai musicien peut-être et j'ai fini finalement navigateur, constructeur et puis là on s'occupe d'essayer de faire le plus vite possible avec les bateaux qu'on a. Donc ça c'est mon métier. Alors après voilà, je suis compétiteur. Donc après ça, bon ben voilà, j'aime bien les enfants parce que c'est vrai que c'est une... les enfants m'ont beaucoup suivi et puis les personnes
et les enfants vous aiment aussi
et aussi. Ouais, alors bon, je suis pas non plus une star de ciné, donc je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils aiment mon franc-parler et puis voilà. Et puis aussi les personnes âgées parce que je trouve que dans les périodes difficiles dans lesquelles on est, elles sont un peu laissées de côté et donc je suis très attentif aussi à ces personnes. Donc voilà. En fait, je suis de 7 à 77 ans.
Sa promesse, journal inattendu avec vous.
Merci.
D'abord, les titres de l'actualité. Annonce d'Olivier Véran. Il y a quelques instants, le ministre de la Santé en visite à Nice envisage un couvre-feu accentué ou même un confinement partiel dans cette ville où les contaminations flambent. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Cette mesure d'allègement pour mettre du baume au cœur aux familles, elles pourront désormais revoir une dernière fois un proche décédé avant l'enterrement, alors que cela n'était plus possible depuis plusieurs mois à cause des restrictions sanitaires. Un soulagement pour de nombreuses familles. Les trois zones scolaires sont en vacances et en plus il fait beau, tout est là pour pouvoir en profiter et relâcher un peu la pression. Nous retrouverons notre correspondant RTL à Marseille au milieu de touristes contents. Et puis dans le journal, le nouvel exploit de Philippe Croizon, qui n'a plus de bras ni de jambes et qui enchaîne les défis sportifs. Il s'est mis une nouvelle idée en tête, être le premier handicapé à partir dans l'espace, vous l'entendrez. Et puis Valérie, bonjour Valérie.
Bonjour.
La météo avec vous, c'est une météo presque printanière hein, ce week-end.
C'est vrai, il fait beau, il fait doux partout, on va avoir quelques averses sur le Finistère, c'est déjà le cas depuis ce matin, qui vont déborder vers les Côtes d'Armor et le Morbihan au fil des heures, peut-être vers le Cotentin d'ici ce soir. Sinon, des entrées maritimes en Languedoc, là aussi ça peut provoquer 2-3 averses pour les autres. Du soleil avec un vent de sud assez fort quand même, notamment sur les Pyrénées, les rafales vont dépasser les 100 km/h en pointe. Tout cela avec des températures extrêmement douces, comprises entre 13 degrés à Rodez et 22 degrés à Biarritz, comptez 16 à Strasbourg, à Lille et à Mâcon et 18 à Paris.
Merci Valérie. À 13h, vous le savez, c'est vous Jean Le Cam qui faites la météo. Vous êtes prêts? Vous savez ça
oui,
par cœur.
Oui, par cœur.
Valérie me disait ce matin, j'ai même pas besoin d'écrire quoi que ce soit.
Quand on est sur le bateau, on est plus au courant. Bon,
c'est
sûr
mieux.
Que pour venir de Bretagne et venir en TGV à Paris, bon,
c'est moins compliqué.
On comptera sur vous à 13h quand même. Merci Valérie.
Le journal inattendu sur RTL.
Nous partons à Nice pour le début de ce journal où était ce matin le ministre de la Santé Olivier Véran. Nice qui vit actuellement une flambée des contaminations. Pour y faire face, le ministre envisage de nouvelles mesures de restrictions sanitaires plus dures. Pourquoi pas même un confinement local? Il est au micro de Mickaël Lefebvre.
J'ai demandé au préfet de renforcer encore tous les dispositifs de contrôle dans la période et je dis aux habitants et je dis aux touristes qui sont venus ici pour profiter des beaux jours niçois qu'ils doivent être extrêmement prudents. Par ailleurs, j'ai peur, monsieur le maire, que ça ne suffise pas et qu'il nous faille prendre des mesures supplémentaires. Ici, dans les Alpes-Maritimes, à l'échelle du département, je demande au préfet de département de continuer la concertation que j'ai initiée ce matin pour que d'ici à la fin du week-end, nous puissions prendre des mesures complémentaires de protection de cette population des Alpes-Maritimes face à cette flambée épidémique. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent.
Le ministre de la Santé au micro de Mickaël Lefebvre pour RT. Toujours concernant l'épidémie et les mesures de restriction sanitaire, les familles vont désormais pouvoir voir une dernière fois leur défunt. Avant l'enterrement, l'obligation de mise en bière immédiate a été supprimée, respectant un protocole très strict, c'est-à-dire impossible de toucher la personne décédée et garder une distance d'au moins 2 mètres. Cet allègement était essentiel aux familles pour accomplir leur deuil. Jean Le Cam, je sais, vous l'avez dit dans votre autoportrait, à quel point vous êtes touché par les personnes seules et par les personnes âgées. Finalement, pouvoir revoir une dernière fois une personne défunte avant l'enterrement, on se demande pourquoi c'était pas possible avant, quoi.
Il y a des choses qui sont pas normales et qui atteignent des valeurs qui sont logiquement intouchables par les événements divers et variés. Et je pense qu'il y a des ce genre de situation doivent être pris en compte, bien évidemment, avec des mesures. C'est sûr, mais voilà, on doit quand même libérer des choses essentielles.
Sachez que le président de la République se donne 8 à 10 jours pour relâcher la pression sur les autres contraintes sanitaires ou au contraire pour les resserrer. Il surveille notamment la montée des variants les plus contagieux. Y aura-t-il bientôt à nouveau du public dans les enceintes sportives? Une décision que nous sommes nombreux à attendre et que les professionnels espèrent aussi. La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, a engagé ce matin des discussions avec des clubs de foot, de basket ou encore de rugby à Lyon pour organiser des matchs tests avec public. Les présidents de clubs sont en train de travailler sur différents protocoles, comme c'est le cas pour les concerts tests qui vont être organisés à Marseille. Valérie Quintin nous en parlait. Il fait beau ce week-end et toute la France est en vacances. Alors pour ceux qui ont eu la chance de partir, on essaye de profiter et de tout oublier, comme à Marseille, où l'on retrouve notre correspondant RTL, Hugo Hamelin. Vous êtes au Vallon des Eaux, un joli petit port, des Marseillais, des touristes souriants et heureux hein, autour de vous, Hugo.
Absolument. Certaines Marseillaises ont déjà sorti le maillot de bain, plus pour bronzer que pour plonger, je vous avoue. Certains réparent leurs coquilles de noix dans ce petit port. Moi, j'ai croisé Yann. Il est venu en vacances depuis Genève avec un objectif bien particulier.
Faire naître le début du printemps. Il fait magnifique à Marseille. Pendant le Covid, c'est une période tout compliquée et certainement que c'est simple de voyager en France. Et donc, on est à peu près 5 heures de Marseille. C'était tout simple de voir la mer, de voir le soleil. Il y a sans doute beaucoup moins de touristes. Et puis, on voit la ville renaître. Hein. On repart dimanche soir.
Voilà, beaucoup moins de touristes que d'habitude, c'est vrai, mais déjà un goût de printemps avec ce grand soleil que sont venus chercher Amélie et sa famille qui ont débarqué de Toulouse hier.
Parce qu'on avait envie de trouver un peu le soleil et puis que Marseille, c'était une ville qui m'attirait depuis longtemps pour tout un tas de raisons, architecture, climat, mer, voilà.
Vous n'êtes pas déçus, c'est le printemps là?
Ah non, c'est magnifique, il fait très beau. La seule chose, c'est que je trouve que les Marseillais respectent pas le port du masque.
Voilà, c'est le bémol, forcément, le Covid pour ces vacances de février. L'absence de restaurant aussi. Il y a 30 clients qui ont été verbalisés hier soir dans un établissement en vue du Vieux-Port. Une nouvelle ouverture clandestine pour essayer de profiter des quelques touristes présents. Et pour ce restaurateur, c'est râpé.
Merci Hugo Hamelin en direct de Marseille. Pour RTL, on se relâche, mais pas trop. À Lyon, les autorités redoutent un lâcher-prise trop important. Alors la préfecture du Rhône a pris les devants dès aujourd'hui. Un arrêté interdit la consommation d'alcool sur la voie publique entre 12h et 18h, heure du couvre-feu, pour éviter notamment les trop grands rassemblements de personnes. À Paris, c'est une manifestation qui fait craindre quelques débordements. Cet après-midi, le mouvement d'extrême droite Génération Identitaire sera rassemblé dès 14h, place d'Enfer-Rochereau, pour manifester contre sa dissolution. Le ministre de l'Intérieur reproche notamment à Génération Identitaire de prôner un discours trop haineux. Sinamir, vous suivez pour RTL ce rassemblement, vous êtes en direct avec nous. Un important dispositif de sécurité a été mis en place.
Oui, beaucoup de gendarmes mobiles, de gyrophares, de canons à eau déployés autour de cette place d'Enfer-Rochereau, notamment par crainte de contre-rassemblements improvisés, d'affrontements entre ultra-gauche et ultra-droite au cœur de Paris cet après-midi. Cette manifestation sera donc statique et on attend du côté de la préfecture de la capitale plusieurs centaines, voire un millier de militants identitaires dès 14h. A priori, aucun membre du Rassemblement National ne sera présent. Marine Le Pen a bien condamné cette procédure de dissolution, signée comme d'autres de ses cadres la pétition en soutien du groupuscule d'extrême droite, mais le parti essaye tant bien que mal de se démarquer sur le fond de ces jeunes identitaires, des activistes connus pour leur côté très provocateur, leurs actions coup de poing anti-islam, anti-immigration, comme lorsqu'ils avaient occupé le toit du chantier de la mosquée de Poitiers en 2012 ou loué un bateau pour repousser les embarcations de migrants en pleine mer Méditerranée. Parmi les soutiens médiatiques enfin du mouvement, un texte de Marion Maréchal-Le Pen devrait être lu à la tribune cet après-midi devant des manifestants très surveillés donc et qui ne manqueront pas certainement de cibler leur nouvel adversaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Merci Sinamir, on vous retrouve en direct dans nos prochaines éditions. La dissolution de Génération Identitaire devrait être prononcée, je le rappelle, ce mercredi. Voilà une jolie histoire. Jean Le Cam, vous connaissez bien sûr Philippe Croizon, l'homme de 52 ans privé de ses 4 membres et qui a relevé de nombreux challenges sportifs, a un nouveau défi en tête. Être le premier handicapé à aller dans l'espace. Et il va pouvoir compter sur une aide de poids, celle du milliardaire Elon Musk. Elon Musk est le patron de SpaceX, entreprise privée de vol spatial. Thomas Dulin a joint Philippe Croizon pour RTL. L'aventurier est très enthousiaste.
J'espère que ça va devenir réel. En tous les cas, ça en prend le chemin. comme à chaque fois, à chacune de mes aventures, ça part d'une boutade, ça part d'une discussion et d'un seul coup, ça devient réalisable.
Quand vous parlez de boutade, vous avez envoyé un tweet, c'est ça, à Elon Musk, vous l'avez interpellé ?
C'est ça, je l'ai interpellé il y a quelques semaines en lui disant Elon, voilà, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras, pas de jambes, envoyez-moi dans l'espace. Contre toute attente, il m'a répondu, ok Philippe, un jour avec Starship, on vous enverra dans l'espace et depuis, on échange par mail. Et après, bien sûr, il faut se rendre compte qu'il y aura des examens médicaux, un entraînement, comme à chaque fois, chacune de mes aventures, chaud patate, mais c'est un rêve de gosse. J'ai toujours eu cette idée-là dans la tête. Et à chaque fois que j'ai une idée dans la tête, j'ai envie de la réaliser.
À chaque fois que j'ai une idée dans la tête, j'ai envie de la réaliser. Ça vous parle, ça? Ça vous plaît?
Ah oui, et puis là, il y a eu quand même, sur le Vendée Globe, il y a Damien Seguin aussi qui a fait le premier personne avec un handicap à faire le tour du monde. C'est vrai qu'il lui manque une main et il a fait une super course. Donc ça veut bien dire que quelque part il y a des gens qui ont un certain handicap, mais je crois que c'est la volonté qui compte et la ténacité pour y aller. Et je trouve que c'est un super exemple et c'est hyper motivant pour l'ensemble des personnes.
On ouvre notre page sport. Irrésistible Naomi Osaka, la joueuse japonaise de tennis âgée de 23 ans, vient de remporter l'Open d'Australie. Elle a battu l'américaine Jennifer Brady en 2-7, 6-4, 6-3. C'est son quatrième titre du Grand Chelem. Grâce à cette victoire, Naomi Osaka va retrouver dès lundi la place de numéro 2 mondial. Une légende du rugby vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite. Dan Carter, 38 ans, deux fois champion du monde, trois fois titré meilleur joueur du monde, 112 sélections avec les fameux All Blacks, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il remercie tous ceux qui ont joué un rôle dans son parcours et en particulier les supporters. Ceux qui vous soutiennent, Jean Le Cam, les supporters, les fans, comptent autant que les équipes qui sont autour de vous?
Ah, oui, parce qu'on a quand même... nous, on est une toute petite équipe, mais par contre, il y a énormément de gens qui nous suivent et qui nous poussent de l'avant. C'est sûr que on fait un Vendée Globe aussi pour eux, parce que c'est un partage, c'est moi, comme je dis souvent, mon premier métier, je suis vendeur de rêves. Donc et là d'autant plus que les gens ont vraiment besoin de rêver, de s'évader, et donc moi je suis content avec tous les coureurs du Vendée Globe qui ont participé à cette aventure et qui ont fait rêver des milliers de personnes. Et je crois que c'est bien. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron aussi le disait, et on le voyait dans son regard, que quelque part, ça le détendait, ça le... Voilà, parce qu'il doit passer des moments assez difficiles en ce moment, et donc voilà, si on lui a apporté un petit peu de détente, c'est bien.
En foot, les résultats de cette 26e journée de Ligue 1, les Lyonnais ont repris provisoirement la tête du championnat en s'imposant hier 3-2 face à Brest. Les matchs à suivre aujourd'hui à 13h en direct sur RTL, le lancement de Saint-Étienne-Reims et Nantes-Marseille à 17h. On en parlait un instant de votre Vendée Globe. Vous êtes arrivé au Sable d'Olonne le 29 janvier dernier. Vous avez récupéré. Comment vous vous sentez là ?
Moi ça va, je passe un peu du coq à l'âne, puisque là je vais on a sorti le bateau Uber avant-hier, on l'a dématé, et puis là j'ai pris le train hier pour venir à Paris. Sans doute que je vais repartir au Sable d'Olonne pour faire quelques arrivées, donc c'est du coq à l'âne. Alors après Anne, ma femme, dit je suis un peu dans la lune.
C'est vrai, vous êtes encore un petit peu ailleurs.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'autre jour, je sors mon bateau du port et j'avais oublié de tourner à gauche pour aller sur la grue. Et puis, il y avait l'équipe qui était sur le ponton et qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ?» Donc, c'est vrai.
Étonnant pour un navigateur.
Ouais, c'est voilà. Alors, j'ai quand même pas perdu le nord.
La vie sur Terre, l'épidémie, tout ça, j'imagine que ça vous a pas beaucoup manqué pendant ces 81 jours.
Non, nous on a été...
Ça fait du bien même de décrocher de tout ça.
Nous on était sur le départ, on a été confinés.
Ouais.
Et après, pendant 3 mois, on a plus de contact avec ces problèmes-là. Et donc, on en a d'autres qui sont différents. Mais non, c'est vrai qu'après, quand on revient, on s'habitue doucement, le masque, tout ça... c'est un petit temps d'adaptation, on va dire.
Vous êtes changé les idées un petit peu pendant ce Vendée Globe de temps en temps. On va en parler dans un instant de moments très difficiles. J'ai beaucoup aimé cette petite vidéo, vous qui chantez une chanson de Johnny Hallyday. Vous connaissez les paroles par cœur. Alors, vous expliquez que sur un bateau, écouter de la musique, c'est pas du tout approprié parce que, avec les secousses, avec le bruit des vagues, en fait, on n'entend rien. En revanche, vous connaissez certaines chansons par cœur et vous voulez fredonner notamment L'envie de Johnny Hallyday.
Et tout d'un coup, ce matin, je me suis dit, mais qu'on me donne le mal pour que j'aime le bien. Qu'on me donne l'obscurité pour que j'aime le jour. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour.
On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie.
Vous avez pensé abandonner plusieurs fois pendant ce Vendée Globe, parce qu'il y a eu un moment difficile, plusieurs avaries sur votre bateau. On va y revenir à tout ça. Et puis, de temps en temps, on vous voit. Vous nous dites, allez, salut à tous, salut, à plus dans le bus. Ou alors vous vous mettez à chanter du Johnny Hallyday. Vous êtes étonnant, Jean Le Cam.
Bah c'est des moments, hein. C'est des moments qui font que, alors suivant la difficulté ou le moment, t'as des paroles en fait qui résonnent dans ta tête, qui sont liées à ce que tu as vécu. C'est-à-dire que tu te poses la question. Des fois, quand vraiment ça fait longtemps que t'es dans la difficulté, tu dis, est-ce qu'il faut connaître la haine pour connaître l'amour? C'est des questions et tu restes là. Une fois que t'as dit ça, tu te dis, bon, alors, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Parce que nous, on est dans une période de contraste total. Oui. Et ça, c'est vraiment des contrastes. Et donc, on part de situations qui sont très difficiles à, voilà, quand Kevin, par exemple, je vais le secourir, voilà, le soir, tu l'as pas trouvé, t'es en pleurs. Et tu le retrouves, il monte sur le bateau, tu l'embrasses, c'est le bonheur absolu. Donc c'est des contrastes tellement énormes.
C'est très très touchant de vous entendre dire que vous avez pleuré avant de retrouver Kevin Escoffier.
Bah ouais, parce que, et c'est vrai que ces notions-là, je les ai vraiment comprises pendant le tour du monde, parce que pleurer, c'est un exutoire et donc voilà, ça sert. On nous a donné ça et ça sert à. Ça sert à évacuer, ça sert à être ce que le corps a besoin de pleurer, il faut le laisser pleurer. Parce que c'est... D'abord, tu peux pleurer parce que tu as des émotions fortes, forcément, qui peuvent être dans le mal, ou l'extrême aussi de bien. Tu pleures de joie. Quand je suis arrivé sur le ponton l'autre jour, bon, je me suis un peu contenu, mais avec tous les gens qui étaient là, j'avais envie de pleurer, mais là, c'était pleurer de joie.
De joie. Ces émotions et Kevin Escoffier, on en reparle dans un instant. À tout de suite sur RTL pour la suite du journal inattendu de Jean Le Cam. Le journal inattendu sur RTL avec Jean Le Cam et Ophélie Meunier.
Journal inattendu de Jean Le Cam avec Ophélie Meunier sur RTL.
David Bowie, Rebel Rebel, c'est une de vos chansons préférées.
Oui, j'adore.
Pourquoi?
Bah parce qu'il y a du rythme. Moi, en fait, j'aime bien le son des chansons. Après, les titres, etc., je les oublie assez rapidement. Mais il y a des chansons qui... Voilà, qui te font vibrer, qui t'emportent, qui t'amènent.
Vous étiez un peu le rebelle de ce Vendée Globe, en fait. Vous disiez, personne ne misait sur nous, avec mon bateau que vous avez comparé à une 4L. Finalement, vous avez quand même fini quatrième.
Bah oui, c'est ça. Bah, c'est une super surprise, hein, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu sur ce Vendée Globe-là, au final, c'était un scénario inattendu. Mmh. C'était quelque chose, et je le dis toujours, c'est que dans le monde dans lequel on est, il faut toujours savoir ce qu'on va faire demain, après-demain, et qu'est-ce qui va se passer. Or, le Vendée Globe, c'est une aventure. Le propre de l'aventure, c'est parce qu'on ne sait pas. Mmh. Et là, pour le coup, c'était une vraie aventure.
Le 30 novembre, tout bascule. On perd la trace de Kevin Escoffier. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'on est sûr qu'on va le retrouver? On angoisse? Qu'est-ce que vous pensez au moment où on vous dit « il faut aller chercher Kevin » ?
Ah ben, quand on me dit, on me donne un point géographique avec une latitude, longitude, moi je dirais que je vais sur le point. Je sais pas ce que je vais trouver, en fait, parce que c'était tellement incroyable. On avait une position et là j'arrive sur le point, donc donné, et là je vois une espèce de petit euh, un petit radeau sur l'eau avec mon Kevin qui me fait coucou. Et voilà, il faut savoir qu'un radeau à l'échelle de l'océan, c'est un confetti. Donc c'est vraiment tout petit. Et donc là, je me dis, bon, bah, je l'ai trouvé, je vais le récupérer. Donc ça, c'est le point.
Premier soulagement.
Voilà, ouais. Soulagement. Après, comme j'avais sa position, je pensais que j'allais le retrouver, que ça balise. Donc je m'écarte de Kevin pendant une heure ou deux pour bien préparer la manœuvre et réduire la toile. Je reviens 4 ou 5 fois au même point, personne.
Oh là,
là. Alors là, tu passes de t'es sûr de le trouver à il est plus là. Donc il avait dérivé, etc. La nuit commençait à s'annoncer, donc ça devenait de plus en plus problématique. Donc c'est vrai que c'est des moments, encore une fois, où tu passes du chaud au froid et qui sont des moments, bon, voilà.
Au moment où il vous dit, donc on connaît la suite de l'histoire, vous avez fini par le récupérer, et puis ensuite il a été récupéré par la Marine nationale française. Alors j'ai cette image en tête, il saute de votre bateau pour aller sur la Marine nationale française, et puis là il vous dit « bisous ma caille ». J'adore ce moment, qu'est-ce que vous pensez là à ce moment-là? Génial, j'ai sauvé Kevin, ou mince, bah, je vais à nouveau me retrouver tout seul.
Bah, c'est encore des moments forts, parce que ça vient comme ça, et puis tout d'un coup, ben, il se jette à l'eau, et puis je me retrouve tout seul, ouais. Sur le bateau. Bon, et puis voilà, et puis l'aventure continue, mais bon, on est conditionné quand même pendant 15 jours, plus de 15 jours à être tout seul, après on est en double, à deux sur le bateau, il y a une certaine connivence, il y a du partage, il y a de la vie, voilà, et tout d'un coup, pouf, je le récupère avec toutes ces émotions, et puis je le rejette à l'eau comme un poisson, et donc il est récupéré par le Nevos, le bateau de la Marine nationale. Donc voilà, bon, et tu te repars tout seul, toi, sur ton chemin.
Pour une suite très très compliquée, vous l'avez dit. On dit que la voile est encore trop un milieu d'hommes. J'aimerais votre avis là-dessus. Vous étiez très copain avec Florence Artaud, qui se battait pour des courses plus féminines. Comment faire pour qu'il y ait plus de femmes encore qui concourent avec vous?
Bah là, cette année, il y en a 6 sur le Vendée Globe, ouais. Alors qu'il y a 4 ans, il n'y en avait pas.
Ouais.
Donc c'est déjà... Je pense que le Vendée Globe est une course qui n'est pas physique. Sinon, à 61 ans, je ne serais pas quatrième. Voilà, il y a Isabelle Josque qui a fait un parcours formidable dans le Sud. Donc ça veut bien dire que c'est plus la tête qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses dans l'ordre, en priorité. Moi, je dis toujours... Une manœuvre réussie, voilà, c'est une manœuvre que t'as pris ton temps à la faire et qu'elle est réussie. Donc
Florence Artaud, ça, elle savait naviguer. On est en 96, vous faites la transat en double à Lorient-Saint-Barth avec Florence Artaud et elle raconte qui commandait sur le bateau.
Alors c'est Jean qui m'a décidé, on a toujours navigué l'un contre l'autre et puis au bout d'un moment, les copains, on a envie de les avoir à son bord. Et quand Jean m'a proposé ça, évidemment, je n'ai même pas hésité, puis j'étais assez contente parce que au moins j'allais partir naviguer avec un bon professeur et que j'allais progresser.
Qui sera le patron?
Oh, c'est Jean le chef, hein. Vous lui donnez n'importe quoi dans les mains, il arrive toujours premier ou podium. Donc moi j'ai à apprendre de Jean, c'est sûr.
C'est vous le chef? C'était vous le chef?
Ah bah Florence, ouais, parce que support du Figaro, j'étais quand même assez on va dire assez performant dans cette série, donc avec Florence, bon, c'est sûr que, mais bon, c'est toujours intéressant aussi, je dis ça toujours, c'est que quand t'as un sexe opposé avec toi, forcément quand t'as un problème à la maison, des problèmes assez importants, tu vas toujours voir quelqu'un du sexe opposé pour avoir un conseil. Et bon, c'est peut-être pour ça aussi que il y a des mâles et des femelles sur Terre. Et sur les décisions essentielles, toujours tu vas voir, quand t'es un homme, tu vas voir une femme ou vice versa. C'est voilà, je pense que ça fait partie de la nature. Et c'est vrai que sur la stratégie, avoir une femme et comme Florence à bord, c'est toujours un partage bénéfique.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. Et pour votre reportage inattendu, vous nous emmenez sur les chantiers de Saint-Nazaire. Vous battez, Jean Le Cam, pour des constructions navales plus éco-responsables. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL, avec Jean Le Cam et Ophélie Meunier.
Il est 13h.
journal inattendu de Jean Le Cam.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est en visite à Nice aujourd'hui, ville dont la situation sanitaire est préoccupante. Elle bat tous les records de taux d'incidence avec 751 cas de Covid pour 100 000 habitants. Le ministre envisage un couvre-feu accentué ou un confinement partiel dans les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, le président Emmanuel Macron se donne une dizaine de jours pour décider s'il relâche ou resserre les mesures de restriction sanitaire, en fonction notamment de la propagation des variants du Covid-19. Une campagne de vaccination pourrait prochainement démarrer dans les entreprises. Elle concerne les salariés volontaires de plus de 50 ans et ayant une vulnérabilité. Elle se ferait avec le vaccin AstraZeneca et devrait se mettre en place d'ici la fin du mois. Les recherches continuent près de Rennes pour tenter de retrouver Magali Blandin, mère de 4 enfants, qui n'a plus donné aucun signe de vie depuis le 10 février dernier. Battue citoyenne, hélicoptère, plongeur, chien, de gros moyens sont déployés. Pour le moment, toutes les pistes restent envisagées, criminelles, accidentelles et même la thèse du suicide. Des clubs de sport lyonnais sont en train de plancher sur un protocole pour organiser des matchs tests avec du public. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était à Lyon ce matin pour rencontrer ses patrons de clubs, impatients de pouvoir à nouveau remplir leur stade. Pas encore de calendrier précis, ces matchs avec public se tiendront uniquement si la situation sanitaire le permet. En sport, victoire de Naomi Osaka ce matin à l'Open d'Australie face à l'américaine Jennifer Brady. C'est le 4e titre du Grand Chelem pour la japonaise Naomi Osaka qui va récupérer sa 2e place au classement mondial. En foot, 26e journée de Ligue 1, Lyon provisoirement en tête du classement après sa victoire hier contre Brest. Match à suivre aujourd'hui, Saint-Etienne-Reims. On retrouve en direct de Saint-Etienne, Raphaël Vantard. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Le match vient de démarrer et oui, en effet, c'est un nouvel horaire.
Et horaire aménagé pour le nouveau diffuseur du football français pour attirer aussi, en plus de vous, Jean Le Cam, et de vous, Ophélie, des Français et les téléspectateurs asiatiques. Ils seront forcément séduits par cette affiche Saint-Etienne-Reims, une rencontre qui fleure bon les shorts courts et les maillots Manu France, le football de Raymond Coppa, Michel Platini. Bref, deux clubs au palmarès prestigieux qui s'affrontent cet après-midi. Les deux équipes ont le même nombre de points au classement. À la différence de but, Reims est devant 13e alors que Saint-Etienne pointe à la 15e place. Le match a débuté il y a quelques instants ici dans un stade Geoffroy Guichard désespérément vide en raison de la pandémie actuelle. 0-0 pour le moment entre Saint-Etienne et Reims.
Merci Raphaël, en direct de Saint-Etienne. Et puis 17h rencontre à suivre Nantes-Marseille. On refait le match à 18h30 sur notre antenne avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot de 20h à 23h. À 13h, c'est l'invité qui fait la météo. C'est à vous Jean Le Cam. Quel temps fera-t-il ce week-end, s'il vous plaît?
Ah bah alors ce week-end, pour toute la partie, on va dire, de la France, il va faire très beau.
Mm-hmm.
Donc beau, chaud, un peu partout. C'est sûr que d'où je viens, Bretagne, Finistère, bah c'est sûr qu'il va faire... On aura quelques averses là aujourd'hui, mais le beau temps va s'installer petit par l'ouest dans cette région. Et évidemment, tout le reste du sud avec des vents assez forts et des températures très douces pour tout le monde. Donc on pourra commencer à envisager les barbecues et puis enlever les pulls et les polaires pour prendre un peu de chaleur, ce qui va nous faire tous du bien.
À aucun moment vous n'avez regardé vos notes, je précise. Merci
pour cette j'essaie météo. De voir à peu près.
Vous gardez la main, Jean Le Cam, pour votre reportage inattendu. Vous nous emmenez à Saint-Nazaire, sur les chantiers de l'Atlantique. Cette semaine, vous y étiez pour découvrir une toute nouvelle voile, rigide, 100% en composite, bien plus solide que celle en tissu. Dans quelques années, c'est ce genre de voile qui propulsera les paquebots. Ultra performantes, ces voiles, c'est aussi l'espoir de proposer un jour des transports maritimes plus éco-responsables. Aujourd'hui, Jean Le Cam, vous vous battez pour que les jeunes qui rentrent dans le métier de la navigation soient correctement formés à cette innovation. Notre reporter Nicolas Bobby est allé à leur rencontre.
Aujourd'hui, les bateaux volent, demain les paquebots seront propulsés par des voiles géantes. Au collège Anita Conti de Saint-Nazaire, les élèves adorent.
Ça peut être l'avenir, ça permet d'utiliser moins de pétrole.
Ça pourrait être une bonne alternative pour l'écologie.
En technologie, on nous apprend à fabriquer des objets.
Au fur et à mesure, les nouvelles technologies, elles avancent. Nous, on n'apprend rien de tout ça, en fait. On essaie de s'enseigner avec le journal.
Nos cours de technologie, ils ne sont pas assez développés sur le sujet.
Alors, dans un monde qui innove en permanence, la formation des jeunes est-elle vraiment dans la pétole, le manque de vent, ingénieur. Au chantier de l'Atlantique, Émeric Lacroix, 25 ans, travaille sur cette voile futuriste à base de carbone, Kevlar et titane.
On ne peut pas être directement formé pour une entreprise, pour une mission spécifique. Au bout de 2 ans de travail sur le projet, tous les jours, je continue d'apprendre et c'est ça qui est génial. C'est une très grosse voile pour des très gros bateaux. Solid sail, c'est des panneaux rigides qui se plient en accordéon. Le rêve des bateaux à voile, du grand retour des bateaux à voile, c'est quelque chose de génial. Je ne pouvais pas rêver mieux en début de carrière.
Cette voile super puissante sera posée sur un mât de 95 mètres, inclinable à 70 degrés. De loin, elle ressemblera à celle utilisée dans le Vendée Globe. Architecte naval, Vianney Vautier, 32 ans, se souvient de son début de carrière.
La formation est bonne. On a des très très bonnes écoles d'ingénieurs en France. Ceci dit, quand on arrive sur le marché professionnel, on m'a demandé de dessiner mon premier bateau. Et l'architecte naval senior m'a dit, bah là, t'es en haut d'une falaise, je vais te pousser. Et d'ici le bas, faudra que t'aies appris à voler. Et donc, ça a été un peu dur, mais a priori, je suis encore vivant. Finalement, c'est qu'on nous a donné des ailes avant.
Avec ces paquebots à voile qui auront tout de même un moteur pour les jours sans vent, les vieux loups de mer vont devoir retourner sur les bancs de l'école. Nicolas Abivin est le père de cette incroyable odyssée.
Les écoles de marine marchande dans le monde entier ont complètement arrêté de former que ce soit des officiers, des sous-officiers ou des matelots de pont à tous les métiers de la voile. Donc il faut réapprendre les notions de vent apparent, de l'importance de la gigue.
Il faudra donc créer une toute nouvelle filière. Justement, Émeric Lacroix, l'ingénieur des chantiers de l'Atlantique, a une question pour vous, Jean Le Cam.
Jean, est-ce que vous voudriez être pilote de paquebot à voile un jour ?
Est-ce que vous voudriez être pilote de paquebot à voile un jour ?
Bah pourquoi pas ? Bah le monde a été découvert avec la voile. Donc Christophe Colomb, etc. Il faut pas oublier ces périodes-là où on ne savait même pas que la Terre était ronde. Donc c'était les vrais aventuriers. Et là, on est repassé d'un cycle à la vapeur et on revient après doucement. En fait, la vie n'est qu'un cycle. On revient, on s'aperçoit que il y a du vent, il y a de l'air et il faut en profiter pour faire naturellement avancer ces bateaux-là. Et je crois que c'est naturel en fait dans le cycle de la vie.
Donc oui, vous seriez totalement partant.
Ah bah tout à fait. J'espère que je serai.
Même plus que ça, que vous le ferez vraiment.
Bah oui, faire une croisière sur un bateau à voile, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable.
Avec ces nouvelles voiles, même les plus aguerries finalement à la navigation vont repartir à zéro. Il va falloir tout réapprendre.
Ah, il faut tout réapprendre, hein. C'est pour ça qu'il y a tous ces... Les métiers changent en permanence dans les cycles de la vie et là notamment, ces métiers-là vont se transformer aussi. Et donc il faudra former des gens, les accompagner et puis voilà, c'est des nouveaux métiers qui vont se faire.
Vous suivez ce projet de près. Est-ce que ce sera commercialisé bientôt, ces nouvelles voiles ? On le sait.
Là, le prototype de la première voile, donc il est en cours. Il va être terminé, je pense, vers 2022. Donc c'est très court. Il va y avoir un premier prototype là en 2021 où on va monter la voile de plus en plus haut pour arriver à vraiment la voile à l'échelle 1 pour les futurs paquebots et donc une commercialisation qui va démarrer d'ici un an.
Probablement dans la foulée. Vous qui les voyez comme personne, comment vont nos océans niveau propreté ?
Là-dessus, moi sur la route des paquebots et des cargos surtout, hein, parce que il faut voir le nombre de bateaux sur les routes marchandes, des bateaux marchands. Et il y a quelques années, on rencontrait des bidons d'huile, on rencontrait des containers. Il y en a, honnêtement, je trouve qu'il y en a de moins en moins, fort heureusement. Et je pense que c'est dû aussi à l'éducation qui a été faite depuis 30 ans sur les jeunes générations, qu'il faut continuer évidemment, mais il y a quand même une prise de conscience de l'être humain sur sa capacité à nuire à l'environnement. Ça c'est clair, on le voit tous les jours. Après, il faut prendre les bonnes directions.
Vous portez un message d'espoir. Aujourd'hui, on vous découvre vos passions, vos combats, vos goûts. Vous nous avez même dit que vous auriez pu être danseur étoile ou jardinier. Et côté musique, vous avez choisi de nous faire écouter aussi un de vos morceaux préférés, Ian Dury, Sex and Drugs and Rock'n'Roll.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need.
J'aime bien le sourire qui se dessine sur votre visage quand on met David Bowie ou Ian Dury.
Ouais, parce que après derrière ce morceau-là, il y a un morceau de piano qui est génial et donc Donc t'as cette espèce d'engouement sur Sex and Rock'n'Roll et tout d'un coup la musique s'arrête et t'as le morceau de piano qui dégage et j'adore ça.
On adore vous avoir en tout cas dans le journal inattendu. Dans un instant, votre invité nous rejoindra, Patrick Arnoux, un des rares Français qui a gravi l'Everest. À tout de suite sur RTL. Sex and drugs and rock and roll. RTL, le journal inattendu.
Le journal inattendu de Jean Le Cam.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Jean Le Cam, vous avez choisi de recevoir aujourd'hui une personne que vous admirez et on va tout de suite comprendre pourquoi. Bonjour Patrick Arnoux. Vous êtes Bonjour. Directeur de l'hôtel Pullman Eiffel à Paris, mais si vous êtes là, c'est surtout parce que vous avez réalisé une incroyable performance. Vous avez gravi l'Everest. C'était en 2018. On va en parler, mais d'abord, j'imagine que vous avez suivi le dernier Vendée Globe de Jean. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de sa course ?
Il m'a fasciné pendant toute cette course. Je l'ai suivi tous les jours. Et je suis complètement admiratif parce que pour moi, Jean, parmi tous les grands marins là, du grand large, font partie des derniers grands aventuriers.
Alors ce qui est chouette, c'est de savoir que vous êtes rencontrés très très récemment, tous les deux, et vous avez partagé votre passion pour les performances sportives. Je reviens en 2018. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie ? Quel a été le déclic pour gravir l'Everest ? Comment vous avez eu l'idée ? C'était une initiative personnelle, mais aussi solidaire, je crois.
Oui, c'est déjà, ça vient d'une rencontre de deux femmes, Christine Janin qui était la première femme à gravir l'Everest, et puis de Nathalie Lamoureux que j'ai rencontrée. Ces deux femmes m'ont fasciné, m'ont inspiré pour tenter aussi à mon tour d'aller sur le toit du monde, mais au-delà du défi sportif, j'avais cœur surtout de construire un projet solidaire. J'ai créé un collectif. Suite au séisme de 2015, la région de Katmandou a été vraiment fortement ravagée. Et donc j'ai souhaité autour de ce collectif reconstruire un village complet dans une région de Katmandou. Et avant de partir sur mon expédition, je suis allé tout vérifier et le village était complètement reconstruit. Donc j'ai pu repartir serein sur mon défi sportif.
À quel point cette ascension a été difficile ? On se dit toujours, moi je trouve ça complètement fou. Je suis extrêmement admiratif de cette performance. Est-ce que c'est vraiment vraiment très 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 dur ?
C'est dur parce que bon, ça dure pas 80 jours comme Jean, mais 60. On vit en moyenne entre 5005 d'altitude. Donc c'est vrai que le corps humain doit s'adapter. Il y a un long moment d'acclimatation. Mais après tout, le plus dur, c'est aussi de dormir, certainement comme Jean, dans son bateau. Parce qu'à 5500 mètres d'altitude, c'est difficile de dormir. Mais après, le corps s'habitue. Et c'est vrai que c'est quand même très difficile, notamment, bon, il faut aimer le goût du risque, comme en mer. Jean dit souvent, la mer ne triche pas, mais la montagne ne triche pas non plus. Et il faut être extrêmement rigoureux et bien préparer cette expédition.
Jean, qu'est-ce que vous avez pensé quand Patrick Arnoux vous a raconté son ascension ?
Ben moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout quand ils arrivent, alors je ne suis pas un spécialiste, hein, mais quand ils arrivent, ce qu'ils appellent le camp 3, je crois, Patrick, et où à ce moment-là, parce que c'est en fait, ils sont accompagnés avec un guide, donc c'est un binôme, et à ce moment-là, le discours, il est entre les deux hommes, c'est de dire, à partir de ce moment-là, si jamais il y a un des deux qui lâche, tu restes sur place, je t'abandonne. Donc ça, c'est un moment, je pense, qui doit être assez profond, c'est-à-dire que tu sais que si tu as une défaillance physique, etc., ben, tu vas y rester, quoi. Et ça, c'est... nous, on ressent ça aussi, quelque part, quand on arrive en milieu de Pacifique, on est loin de partout, on sait que les seuls secours qu'on peut avoir, ce sont les autres concurrents, parce qu'il n'y a pas de bateau marchand, il n'y a pas de bateau de pêche, il n'y a plus personne. Donc c'est marrant ce parallèle qu'on peut avoir entre la montagne et la mer, qui sont vraiment des rapprochements humains très forts.
Jean, vous parliez du guide de Patrick Arnoux. Il y a cette musique que votre guide, je crois, vous avait fait découvrir. Une musique népalaise qui vous a accompagné sur votre route périlleuse. C'est le décalage entre le risque et cette musique douce qui fait du bien.
Oui, cette musique qui était diffusée tous les matins dans la tente de mon guide Passang m'apaisait. Oui. Je l'écoutais vraiment tous les matins et en face de moi j'avais la cascade de glace à franchir qui était certainement la partie la plus délicate. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'avalanches à cet endroit et c'est vrai que du coup j'étais complètement serein derrière cette musique et c'est vrai qu'on priait. Je pense que j'ai jamais autant prié de ma vie autour d'un hôtel qui a été construit sur le camp de base et à travers cette musique voilà, ça nous transporter vraiment dans une zénitude qui était utile pour la suite.
On a une musique bouddhiste d'un côté et Johnny Hallyday de l'autre. Peu importe, du moment que ça fait du bien. Vous n'allez pas vous arrêter là. Patrick Arnoux, prochain défi, gravir le K2 en 2022 ou en 2023. Deuxième plus haut sommet du monde après l'Everest, cette montagne est aussi appelée la montagne sans pitié. Pourquoi avoir besoin à ce point d'aller toujours plus haut, toujours plus loin et prendre toujours plus de risques ?
Quand on goûte des aventures extrêmes, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Alors, il y a un temps de digestion quand on rentre, comme Jean, j'imagine. Mais quand je suis rentré de l'Everest, il a fallu digérer aussi cette expédition qui a été longue et éprouvante. Mais l'envie de repartir sur ces grands espaces et sur ces aventures extrêmes est plus forte. Et même si on n'a pas tous les feux verts de nos proches, voilà, c'est plus fort que nous et on a envie d'y repartir.
Le goût du risque, ça vous rappelle aussi toujours, Jean Le Cam, vous identifiez à ce que dit Patrick?
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi c'était mon cinquième Vendée Globe et les gens ils disent pourquoi tu repars, etc. Et puis je leur dis, je sais pas, est-ce que voilà, je suis un addict du Vendée Globe ou pas? Peut-être.
Parce que j'ose poser la question d'un sixième? Dans 4 ans ?
Peut-être, on ne sait pas encore. Là, je suis en pleine digestion, comme disait Patrick, je trouve que c'est un joli mot. C'est-à-dire, je suis en pleine digestion du Vendée Globe. Donc voilà, et puis peut-être, on ne sait pas, on va voir, on se laisse porter. Mais c'est vrai que quand on a fait ce qu'a fait Patrick, déjà, ou ce qu'on fait nous, quelque part, on a envie d'aller plus loin, je crois.
Peut-être un sixième Vendée Globe dans 4 ans alors.
Et autre chose en parallèle, c'est sûr.
Et autre chose en parallèle. Patrick Arnoux, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir et de se projeter dans ces défis sportifs. Et bonne chance pour le K2.
Merci beaucoup.
La préparation va démarrer bientôt.
Et avant de partir, je vous ai ramené à chacun un petit drapeau de prière qui vient du camp de base. Il ne m'en restait pas beaucoup, mais en tous les cas, qui vous porte bonheur à tous les deux.
Ah bah génial, on est gâtés. Merci beaucoup. Merci Patrick Arnoux, à très bientôt. Dans un instant, une petite surprise pour vous, Jean Le Cam, et puis vous laisserez un message à une personne de votre choix. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL, avec Jean Le Cam et Ophélie Meunier.
À votre arrivée du Vendée Globe 2012-2013, en cinquième position, vous avez fait une danse endiablée hein, sur ce titre, Allumer le feu de Johnny Hallyday.
Ouais.
On voit, d'ailleurs j'invite les auditeurs à aller voir cette vidéo parce qu'on voit vos talents de danseur. On en parlait de Johnny Hallyday, c'est un artiste que vous aimez beaucoup, qui vous accompagne. On le sait moins, mais Johnny était passionné par les bateaux et par la mer. Voici Johnny, en 2005, qui parle de son périple pendant un an sur un bateau de 43 mètres.
Je me suis intéressé au bateau un peu plus, disons, pas confortable, mais pour y vivre. Donc j'avais acheté un 43 mètres où j'ai passé un an de ma vie. J'étais parti de Miami, passant devant Cuba, Porto Rico, j'étais jusqu'au Venezuela, je suis revenu à Aruba, qui est une île hollandaise. Puis en septembre, après je suis reparti du côté de Miami. Mais c'est formidable de vivre sur un bateau, c'est formidable de naviguer vers la mer. On peut se concentrer beaucoup plus, Enfin, je sais, moi, les meilleures chansons que j'ai pu écrire et les choses que j'ai pu faire positives dans ma vie, c'était quand je suis parti sur ce bateau.
Chose positive, c'était quand je suis parti sur ce bateau. Puis Johnny Hallyday explique aussi à quel point on est rassuré quand on a des difficultés en mer et qu'on aperçoit un phare.
On n'a pas vu la terre pendant des jours et des jours. Et tout d'un coup, vous savez, comme ces films de pirates, de pibiers, à la longue vue, c'est terre. Et tout le monde fait « Waouh !» Et là, et je pense qu'en cas de difficulté en mer, on voit un phare et on fait « Ah, le phare !» Ça rassure.
Vous vous battez, vous, Jean? Jean Le Cam, pour préserver les phares, justement.
Oui, oui, on a monté une association qui s'appelle Plein Phare sur Plein Fret, donc qui est en fait un phare qui est sur une île qui fait partie de l'archipel des Glénans, donc dans le sud Finistère, et c'est vrai que l'État s'est un peu désengagé des entretiens du fort, en fait, qui est sur cette île. Et du coup, on a monté une association et qui fonctionne bien et qui crée en plus un relationnel entre les gens qui sont dans cette association. Et je pense qu'aussi, le côté humain est très important. Et c'est vrai que préserver ce patrimoine, et ce que je dis toujours, c'est que quand les gens voulaient arrêter les phares, donc maintenant on a le GPS, etc. Et je dis oui, mais enfin, c'est comme si on démontait la Tour Eiffel, qui est un phare. Et les gens, ils savent pas, ils n'ont pas cette... la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel, mais à l'origine, c'est un phare. Et donc, c'est un signal fort, c'est quelque chose que tout le monde voit. Que ça serve à quelque chose ou à rien, ça sert énormément. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui ne servent normalement à rien et qui sont bénéfiques pour tout le monde.
Je disais qu'on allait vous découvrir aussi aujourd'hui à travers vos goûts cinématographiques. Alors, un de vos films préférés, c'est ça, vous allez tout de suite reconnaître cette scène mythique.
Cours, Forrest ! Cours, vite ! Cours, Forrest ! Cours, Forrest ! Cours !
Il paraît que vos proches vous surnomment Forrest Gump.
Ah bon ?
Oui, j'ai lu ça.
Ah, je sais pas.
Vous savez pas ? Bon, alors on leur demandera.
Voilà.
Pourquoi vous aimez ce film, vous ?
J'aime bien parce que c'est justement un parcours qui sert à rien et qui entraîne quelque part quelque chose de positif derrière lui.
Ouais.
Comme un sillon, comme une foule avec une personne.
Voilà pourquoi vos proches vous appellent Forrest Gump, c'est ça ?
Ah, peut-être. C'est-à-dire que t'as une espèce de t'entraînes des gens dans quelque chose qui est complètement Forrest qui court sur le tour du monde. Et pourquoi tu cours, Forrest? Il sait pas pourquoi il court, mais il y a tout le monde et cette foule qui arrive derrière. Je trouve que c'est
et ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien, tout simplement.
Un autre de vos films préférés, mythique également, Le Dîner de cons de Francis Weber.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Leblanc c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon.
Et vous riez.
Votre prénom à vous c'est François, c'est juste.
Oui.
Et bien lui c'est pareil, c'est juste.
Il vous rappelle de bons souvenirs ce film.
Bah oui, parce que rire fait partie de l'équilibre quand même. Moi j'aime bien, j'aime bien rigoler. Puis ça me fait rire, donc Et puis alors quand tu pars dans des fous rires, j'adore.
Chaque semaine, dans le journal inattendu, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Si vous avez une demande à faire passer ou si vous voulez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou à qui vous n'avez jamais parlé, eh bien c'est le moment. Alors Jean Le Cam, à qui avez-vous choisi de laisser un message ?
J'ai appelé Coluche hier soir et je lui ai dit « Écoute, Coluche, là on est dans un moment où va falloir que tu accélères un peu les choses. Hein. Tu as fait les Restos du Cœur et puis là on a encore plus besoin de toi, donc il va falloir que tu accélères un peu le mouvement. Et donc, écoute, vas-y, on est derrière toi et voilà. Bah, je te rappellerai plus tard. Salut.
Jean Le Cam, vous savez que Coluche a été aussi l'invité du journal inattendu.
C'était ah oui.
En 1974, écoutez.
Reprise du journal inattendu aujourd'hui avec Coluche. 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 C'est votre nom ?
Et c'est un pseudonyme de mon vrai nom que je m'appelle Coluxi, en fait. Colucci, pour les Italiens, que mon papa était italien, le pauvre.
Et dans cette émission, Coluche racontait son admiration, justement, pour les sportifs.
Ah, ça, le sport, j'aime bien, oui. Ah oui, j'aime bien. Parce que au moins, il y a une franchise dans le sport, c'est qu'ils se foutent franchement sur la gueule, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Je veux dire, ils font pas de manière politique, machin, après vous, non, ils se battent. Ça, c'est très, très sympathique, déjà. Je veux dire que tout le monde fait la même chose, mais eux, au moins, ils le font bien.
Ils se battent, ils font pas de manière.
Ouais, c'est des vraies paroles, quoi. C'est génial, quoi. C'est vrai qu'il nous manque, quelque part.
Coluche, au journal inattendu en 1974, à qui vous laissez un message aujourd'hui, dans votre journal inattendu. Merci, la boucle est bouclée. Jean Le Cam, merci beaucoup de nous avoir fait voyager aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Si vous nous rejoignez sur RTL, vous pouvez écouter cette émission en replay sur notre nouvelle application ou sur rtl.fr. Tout de suite, c'est Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, numéro consacré à Carole Bouquet. La semaine prochaine, mon invité, le juge Renaud Van Ruynbeek. Bon week-end à tous sur RTL. À samedi prochain avec plaisir, 12h30 comme d'habitude.
Le journal inattendu sur RTL, avec Jean Le Cam et Ophélie Meunier.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.